Des quatre évangiles de Matthieu, de Luc, de Marc et de Jean, il y a celui de Luc uniquement qui parle de la naissance et de l'enfance de Jésus. Et c'est à partir du récit que l'on connaît, le récit populaire de l'accouchement de Marie dans une crèche, dans une grange. C'est à partir de ce récit-là que tout le folklore de la fête de la naissance de Jésus, que les Romains, vers les premiers siècles, dès les premiers conciles, quelque part dans les années 300, 325 pour être précis, ont décidé d'associer la fête de la naissance de Jésus justement dans la fête du solstice d'hiver, une fête romaine et une fête païenne. On a décidé de fêter la naissance de Jésus, qui est importante en fait, qui est importante dans un sens parce que c'est la venue d'un grand prophète. Je vais creuser plus avant dans les prochaines minutes, mais je vous présente ce Jésus comme prophète qui est venu, dont on attendait la naissance. Et bien évidemment, on n'a pas attendu que ce roi qui doit venir, on n'a pas attendu qu'il soit adulte pour qu'on l'accueille et pour qu'il soit une menace. Parce que déjà là, le roi Hérode, comme Luc le transpose ou l'écrit ou cherche mes mots là, pour nous dire au tout début de son évangile, de son récit, que le roi Hérode, qui était au pouvoir à ce moment-là, se sentait menacé par ce roi qui allait venir, qui est la parole de prophète, et c'était dans les Écritures. Plus tard, Jésus adulte va lire un passage du livre d'Isaïe, chapitre 61 d'Isaïe, qui parle de lui. Mais il y a les mages qui sont là. Donc, je ne vais pas élaborer dans un premier temps, dans les prochaines secondes, là-dessus. Mais ce récit de l'enfance, ce récit de l'enfance, on en est imbibé depuis tout petit. Mais oui, c'est important de souligner la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui, c'est lui qui nous a révélé Dieu dans tout son 3 ans de ministère, et surtout par sa mort et résurrection. Et c'est surtout sa mort et sa résurrection et l'avènement de l'Esprit-Saint qui font en sorte que nous avons cette grande commission, cette bonne nouvelle, cette heureuse information qui change la vie, et encore aujourd'hui que nous en parlons, que nous évangélisons, que nous annonçons cette bonne nouvelle, et je le répète encore, cette heureuse information qui change la vie, parce que Jésus, alors qu'il était en Galilée, qu'il a arpenté villes et villages pour annoncer cette bonne nouvelle de sa venue et de faire des miracles, d'accomplir des prodiges, de changer la vie des gens. On va y revenir. Mais moi, je trouve que le fait de cantonner notre Seigneur Jésus-Christ dans un folklore de d'agencer avec des figurines, des figurines que on ne sait pas s'ils avaient vraiment ces apparences-là. Ça, c'est l'apanage des artistes. Ce sont les créateurs de statues. Ces statues qui ne voient pas, ces statues qui n'entendent pas et qui pourtant les gens depuis beaucoup de générations, depuis plus de 2000 ans, même dans le désert, le peuple qui était sorti de l'esclavage d'Égypte, retournait à leurs anciennes manies d'adorer, ben, il y a le veau d'or, d'autres statues, d'autres croyances, d'autres fables. Et je dirais que depuis que le monde est monde, les gens ne se rendent pas à l'évidence. De toute éternité, l'être humain est tourné vers ses quant à soi, est tourné vers ses histoires à lui, ses croyances, ses objections. Puis de laisser Jésus dans le berceau, de dire le petit Jésus, je vais prier le petit Jésus, le petit Jésus de plâtre, on entend ça, puis ça c'est un juron populaire, c'est pas sacré, mais on cantonne Jésus dans un pouvoir d'enfant. Et un pouvoir d'enfant, vous savez, un enfant, c'est un enfant. L'enfant n'a pas le pouvoir d'un adulte. Et Jésus est grand. C'est pas un petit Jésus, parce que Jésus, il est venu nous sauver. Jésus nous a annoncé ce Dieu qui est bon, qui est lent à la colère, qui est compatissant, qui est miséricordieux. Et s'il ce n'était pas de cela, et lui-même est bon, le Père, de nous envoyer son Fils unique afin de nous sauver, parce que on n'est rien devant lui. Mais il nous aime d'une façon incommensurable, et c'est pour cela qu'à travers la bouche des prophètes avaient annoncé la venue de ce fils, de ce roi. Oui, certains plus tard ne l'auront pas reconnu, et même encore aujourd'hui, il y en a qui l'attendent encore. Et puis, l'importance de relire, de revisiter l'histoire. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Jésus est né le 24 décembre au soir à minuit parce que ses parents ont cherché un hôtel dans la soirée du 24 qu'ils n'ont pas trouvé puis que finalement ils ont trouvé une grange et c'est là que Marie a accouché. Que dans la demi-heure qui suivit, guidée par une étoile, il y a eu des bergers qui sont pointés pour aller voir l'enfant. De pas longtemps après, les rois mages qui viennent offrir l'or, la myrrhe et l'encens. Les rois, les mages, ceux qui faisaient l'astrologie, l'art divinatoire, ils étaient les espions, ni plus ni moins, d'Hérode, mais ont décidé de ne pas faire rapport de ce qu'ils avaient vu, parce que, puis ça c'est vrai, ils ont été subjugués par ce qu'ils avaient vu, touchés par l'esprit. On y reviendra. Mais mon propos, c'est que Quand on figure l'événement de la naissance de Jésus, les figurines, la crèche, le bœuf et l'âne, les bergers, les mages, toutes dans la même scène, comme si ce beau monde-là venait visiter Jésus, Marie et Joseph, tout en même temps, dans la même journée. Moi, je vous dis, relisez, puis on va le faire dans quelques instants, relisez le passage de l'évangile de Luc, que lui, c'est le seul qui ramène ça. Lui, c'est un journaliste d'enquête, Luc, un peu avant son temps, qui est arrivé après, qui n'a pas tellement connu Jésus de son vivant, mais que lui, Luc, un médecin, un érudit, faisait un travail d'enquête et a posé des questions à gauche et à droite, et comme la tradition populaire du temps, la tradition orale était très avancée et très élaborée. Alors, il a pu considérer beaucoup de choses que les autres évangélistes, pas qu'ils n'aient cru bon de faire ça, mais chacun a son style. Et c'est pour cela que les quatre évangiles ne peuvent être colligé en un seul. Il y en a beaucoup qui avaient essayé de faire l'exercice de coller les quatre évangiles pour n'en faire qu'un seul. Non, on ne peut pas le faire, puis on n'a pas à le faire non plus. Parce que ces quatre expériences de la bonne nouvelle, quatre façons de voir Jésus. Et il y a ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Les trois premiers évangiles se ressemblent beaucoup dans le genre d'événements qu'on rapporte, les paroles de Jésus qu'on rapporte, semblables dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Certains événements, certains miracles reviennent. Il y a des similitudes. Et l'évangile de Jean, tout différent parce qu'il amène ce caractère eschatologique des fins dernières. Et ce ne sera pas son seul livre, car il rédigera plus tard l'Apocalypse, le livre des Révélations, et rédigera quelques épîtres. Alors, les récits de l'enfance, moi j'ai le goût de vous dire que comme chrétien, on a à questionner l'histoire, on a à interroger l'histoire, aller lire les livres d'histoire, de littérature biblique, aller lire des choses d'histoire de l'Église primitive, l'histoire de la cité romaine, parce qu'avec la tradition ecclésiastique, il y a beaucoup de choses historiques qui sont gommées de la réalité. Et il y a des choses historiques qui semblent être effacées de la mémoire et que ce n'est pas ramené. La tradition des églises traditionnelles ont fait en sorte qu'on fête la naissance de Jésus dans une fête qu'on a récupérée, qu'on a appelée Noël. Une fête de la nativité, que la fête de la nativité de Jésus, et de cantonner Jésus dans un pouvoir d'enfant et de le laisser dans la crèche. Moi, ça me pose question. Oui, c'est important de souligner, en quelque sorte. Mais le souligner, c'est vite dit. On n'a pas. On fête chacun notre anniversaire, mais on le souligne, oui. Il y a des personnages célèbres qui sont nés un jour, mais pas plus que ça. Alors que pourquoi on symbolise la naissance de Jésus, puis qu'on s'amuse à fabriquer des figurines avec un modèle réduit de crèche, avec le bœuf et l'âne, puis on le sait qu'il n'y avait peut-être pas l'allure qu'on leur représente. C'est de l'idolâtrie, ça. C'est de l'idolâtrie pure et simple. Et Jésus, dans un des commandements qu'il nous a donnés, nous a dit, dans Exode 20, alors qu'il donnait les tables de la loi, tu ne te feras pas de représentation, tu ne feras pas de représentation de ton Dieu, et tu n'auras pas d'idole, d'autre idole que ton Dieu. Et on va lire le texte, on va lire le texte. Alors, Luc commence, chapitre 1, en disant, beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi. Alors c'est Luc, dans son introduction d'Évangile, qui s'adresse, qui écrit le texte à un dénommé Théophile. Au verset 4 poursuit, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Là, il commence à raconter la naissance de Jean-Baptiste, que Élisabeth, une cousine de Marie, va mettre au monde. Alors, il poursuit en verset 6, ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée au prêtre de son groupe, il était sacrificateur et assurait le service du culte devant Dieu. Il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. Et l'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il serait grand devant le Seigneur. Il ne boira pas ni de vin ni de boisson forte. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Alors, on assiste à la prophétie que l'ange va donner à Zacharie. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Verset 16, chapitre 1 de Luc. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit, la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Et quand il sortit, ils ne pouvaient pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision, il leur faisait des signes et restait muet. Alors, quand on lit ce passage qu'on pensait connaître, parce qu'on l'entend depuis qu'on est tout jeune, et ceux qui viennent de se convertir lisent ce passage et découvrent de belles choses. Et on redécouvre de belles choses. Ce n'est pas tout que on devrait même pas faire de crèche. De toute façon, beaucoup, c'est les églises traditionnelles, les églises catholiques traditionnelles et de d'autres dénominations aussi, les orthodoxes, certaines dénominations chrétiennes vont faire la mémoire de la naissance de Jésus, mais pas tellement de Jean-Baptiste. Luc commence le récit, avant de parler du récit de l'enfance de Jésus, il va parler de l'avant-plan de Jésus, en annonçant la venue de Jean le Baptiste, qui lui va commencer un ministère et il va même baptiser Jésus. Et ça, c'était dans toute la prophétie. Et cette prophétie-là, elle va être comprise beaucoup plus tard. Dans le verset 26, après que l'annonce à Zacharie, sa femme Élisabeth conçut un enfant et pendant 5 mois, elle va garder le secret. Elle se disait, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours, où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Et en ce temps-là, une femme qui ne pouvait donner d'enfant était dans une position dangereuse. C'était comme un genre de malédiction. Alors que de donner naissance à un ou plusieurs enfants était un signe de prospérité. Et c'est pour ça que le Seigneur nous avait créés. C'est pour ça que le Seigneur nous a créés. Et dans ces temps-là, il le prenait vraiment en considération. Le sixième mois après ça, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, à Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Je suis toujours dans le premier chapitre de Luc et je lis le récit. Dans le verset 28, l'ange entra chez elle et dit, Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est un verset. Verset 37 du livre de l'Évangile de Luc, Luc 1, 37, Rien n'est impossible à Dieu, c'est un verset que nous devons remarquer. Rien n'est impossible à Dieu. Si nous le prions d'un cœur contrit, d'un cœur confiant, il va nous exaucer, comme il a exaucé la prière d'Élisabeth et de Marie qui était une femme modèle, une femme qui était obéissante. Et elle dit alors, Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, et l'ange la quitta. Dans les jours qui ont suivi, Marie se mit en route et se rendit vers la région montagneuse dans une ville de Judée, voire elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte, Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. C'est ce qui fait ce qui a donné naissance à une prière à Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Et c'est une prière que l'Église traditionnelle, c'est une formule de prière qu'on répète et qu'on répète sans cesse, et on en a fait une prière à Marie, alors que c'est la salutation d'Élisabeth pour Marie. C'est une salutation. C'est biblique. On peut, à l'occasion, se la remémorer. Même la prier, mais non pas prier Marie directement. C'est une grande erreur historique que de prier des personnes qui sont saintes, des personnes qui sont vertueuses, des personnes qui ont connu les dons de l'Esprit Saint, qui ont été imbibées de l'Esprit Saint. Qui ont connu Jésus en trois dimensions, je dirais, en personne. Mais même si les personnes sont saintes, vertueuses, admirables, qui sont des modèles, trois personnes uniquement nous pouvons prier. C'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est théologique, c'est étudié, c'est dans les Écritures. C'est biblique. Mais de prier des hommes qui sont décédés, c'est des vieilles traditions romaines païennes qui faisaient de la nécromancie, qui faisaient revenir les morts, et que même encore aujourd'hui, des expériences de Ouija ou les expériences de nécromancie encore, que ça peut se faire. De lire l'avenir à travers les squelettes humains. De dire que, oh, c'est morbide, oui, mais ça, c'est des choses de sorcellerie et des choses morbides dans le solstice d'hiver qui se célébrait. Et les fêtes païennes. Il y a beaucoup de choses qui sont occultées par une histoire de l'Église sur laquelle on a mis beaucoup de sang bon. J'ai parlé de gommer la réalité, d'effacer une certaine réalité de l'histoire pour ne croire et retenir ce qui fait notre affaire. Mais étudier l'histoire amène une critique des événements, une autocritique des événements, une critique des événements d'une façon objective. Heureusement que l'histoire existe et que des gens s'y affairent. L'histoire nous permet de nous arrêter au fait brut des événements. Le fait brut des événements qu'on relate depuis tantôt, c'est que un ange est apparu à Zacharie, lui a annoncé la naissance de Jean et que sa femme allait donner naissance à un enfant qu'il allait appeler Jean. Après ça, l'autre fait brut, le même ange Gabriel, apparaît à Marie et lui annonce qu'elle aussi va mettre au monde un enfant, mais que cet enfant-là est spécial parce que c'est le Messie qu'on annonce depuis plusieurs centaines d'années et que ça va se passer de façon spéciale parce qu'elle est vierge et qu'elle n'a jamais connu d'homme. Alors, fait brut. Je reviens au récit. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle, elle fut remplie d'Esprit Saint. Et va dire, et c'est là mon aparté, je me suis égaré un peu, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et l'Esprit Saint lui avait révélé cela. La mère de mon Seigneur, c'est nul autre que l'Esprit Saint qui a révélé cela à Élisabeth. Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur. Et ça, c'est le début d'un cantique qu'on va réciter assez souvent. Et qui est biblique. qui est dans l'évangile de Luc. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race et de sa descendance à jamais. Alors, c'est un cantique, une salutation, une prophétie, et que c'est la réalisation de ce qu'on attendait depuis longtemps. Marie resta, je reprends à 56, verset 56, Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, et puis elle s'en retourna chez elle. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins, sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: Non, il s'appellera Jean. On lui dit: Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et Zacharie parlait et bénissait Dieu: Gloire à toi, Seigneur. Oui, parce que c'était une grande chose pour lui qui venait de se passer, de donner naissance, devenait père, alors qu'il n'avait pas d'enfant et que son épouse ne pouvait lui en donner car elle était stérile. Et la crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: Que sera donc cet enfant? Que va devenir cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Ça, c'est un cantique, tout comme l'autre de Marie. C'est un cantique qui est colligé dans un livre de prière qu'on appelle le bréviaire, que les prêtres dans l'Église traditionnelle récitent. Et comme chrétien, il n'y a rien qui nous empêche de reprendre ces passages-là, parce que c'est la joie de Marie, c'est la joie de Zacharie, éclairée, guidée par l'Esprit Saint, et qui fait mémoire, qui remémore toute l'espérance de ces prophéties qu'ils avaient entendu parler jadis et que là se réalise. Le chapitre premier de l'évangile de Luc termine, verset 80, l'enfant Jean grandissait, son esprit se fortifiait, il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître en Israël. Dans le chapitre 2, c'est la naissance de Jésus maintenant qui est racontée. En ces jours-là, verset 1, chapitre 2 de l'évangile de Luc, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Là, nous avons des données historiques précises. C'est précis dans l'histoire de la terre. Alors, le fait de questionner l'histoire, bon, on est enraciné dans un moment précis de l'histoire. Et on sait hors de tout doute que Jésus est venu au monde dans ce contexte historique. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier, elle l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire, car il n'avait pas de place pour eux dans la salle commune. Luc ne dit pas plus que ça. Où est-ce qu'on a pris toutes les autres informations? De la romance, des choses qu'on raconte dans l'imagerie populaire, dans la tradition orale du temps. Où est-ce que ça commence, le fait de fabriquer des statues qui représentent Jésus-Marie avec l'enfant Jésus emmailloté dans une crèche? Il y a eu beaucoup de fables. Tricoté autour de la naissance de Jésus, qui n'a rien à voir avec le véritable évangile. Le véritable évangile étant la seule préoccupation du chrétien. Le véritable évangile était la véritable préoccupation de Jésus lui-même. En fait, avait dit, avait rabroué ceux et celles qui se réclamaient de sa famille, et qui a dit, il n'y a pas personne de ma famille, la famille biologique, mais ceux qui sont mes frères, ceux sont mes sœurs, sont ceux qui font la volonté, sont ceux et celles qui font la volonté de mon Père. Ce sont mes vrais frères et sœurs. Alors il ne s'attardait pas, ne voulait pas s'attarder dans des distractions. Et comme chrétien, elle devrait être notre seule chose, notre seule préoccupation. Et oui, Jésus est venu au monde, mais il a grandi et c'est le véritable Jésus-Christ. Je ne parle pas de Jésus, juste Jésus. Dire, ah, Jésus à moi, mon Jésus. Mais oui, c'est sûr qu'il y a toute une portée affective. Jésus est venu nous apporter, nous dire que le Père nous aime d'une façon incommensurable et que lui-même nous aime d'une façon incommensurable. Il s'occupe des pauvres, des malades, des exclus, des personnes exclues, les personnes riches, les escrocs, les voleurs, tout le monde, toutes les personnes que les gens rejetaient, Jésus allait vers eux et c'était sa seule préoccupation. Bon. Mais c'est quoi de s'attarder à... Oui, Jésus est venu, c'est la promesse, amen, alléluia. Alors Jésus est né, il nous est né un sauveur aujourd'hui. Oui, et après, on a encore du pain sur la planche pour évangéliser ce monde. Et ce Jésus est un grand Jésus, c'est pas un petit Jésus de plâtre. C'est un Jésus qui est agissant encore aujourd'hui. C'est un Jésus qui change la vie si on sait le prier, si on le supplie de nous aider. On l'a lu au début de l'évangile de Luc, rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus est venu nous révéler ce Dieu que rien n'est impossible de faire pour nous. Tout le reste du récit. Alors, Luc ne fait que dire que Jésus est venu au monde simplement, emmailloté dans une grange. On va parler des bergers, mais à nulle part on va pas dire qu'ils vont croiser les mages. C'est une erreur historique de mettre tout dans le même tableau. Je me répète, là, j'en ai parlé tantôt, mais c'est une erreur historique, c'est de gommer vraiment la réalité. Et moi, j'ai été élevé dans ce contexte-là. Moi, catholique, je suis venu au monde dans l'Église catholique. J'ai encore du respect pour l'Église traditionnelle. Puis, comme je l'ai dit ailleurs, moi, jeune, j'ai posé des questions parce que... Je lisais des choses dans l'Évangile et j'en voyais tout autre ailleurs. Oui, j'aimais voir l'enfant Jésus avec les belles statues. À l'île verte, on en avait de très, très, très belles. Oui, beaucoup d'œuvres d'art et des artistes qui se sont illustrés. Mais le Seigneur nous appelle à aller beaucoup plus loin que ces représentations. C'est pas pour rien qu'il avait dit en Exode 20, vous ne vous ferez aucune représentation, soit au ciel, soit sur la terre, même des gens qui auraient connu Jésus, et même faire des statues de gens qu'on élève et qu'on prie, qu'on élève à des stades de quasi-divinité. Non, non. Non, c'est le commandement de Dieu qu'on transgresse. Puis on se donne bonne connaissance parce que ah, ben c'est la tradition, puis tout ça, puis c'est l'empereur romain, les Romains, nanana, et l'Église romaine, l'Église de l'Empire romain. Alors, je ne ferai pas l'histoire aujourd'hui, mais c'est important de lire et d'interroger l'histoire d'où les choses viennent et de relire les récits de l'enfance dans l'évangile de Luc nous amène dans l'essentiel de l'histoire comme étant des faits bruts. Luc, comme enquêteur, a rassemblé les faits et en a fait une trame qu'il rapporte, l'expérience de foi aussi dont l'Esprit Saint et qui a donné le ton à une tradition des choses qui se sont passées, qu'on reconnaît comme vraies et biblique, car c'est l'accomplissement des prophètes. Je parlais du recensement. Alors, au verset 4, chapitre 2, tantôt je disais, Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était de la lignée de David. Et bon, là j'étais rendu dans le verset 7, elle mit au monde son fils premier-né, le couchait dans une mangeoire, et dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient. Passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Et c'est très peu plausible que Jésus soit né le 25 décembre ou le 24 dans la nuit, parce que les bergers à ce moment-là ne faisaient pas paître leurs troupeaux dans les champs. Pour une raison bien simple, parce qu'il faisait trop froid. En décembre, en Israël, la tradition veut que, bon, on le voyait avec une petite neige, puis tout ça, puis même qu'on aimait border de neige un peu, la crèche. Puis là, on voit arriver les bergers, avec les moutons, avec une petite neige. Historiquement parlant, ça se peut pas parce qu'il faisait vraiment, mais vraiment trop froid. Alors, les bergers, vraisemblablement, auraient visité Jésus quelque part fin avril, début mai. Les historiens, ceux qui font des études, qui font des études archéologiques, des études, toutes sortes d'études scientifiques, puis dans le temps, puis en lisant les historiens, puis en visitant aussi, en interrogeant les coutumes de ce temps-là, puis plein de choses. Vont fixer la naissance de Jésus quelque part au printemps. Et c'est là, puis véridiquement, que vraiment, il y a des bergers qui les ont visités. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de la lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, qui est le Seigneur. Et voici ce signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci disaient entre eux: Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller, ils découvrirent Marie Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient que de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et ils glorifiaient, ils louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem, un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Au verset 28, chapitre 2 de l'évangile de Luc, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain. Et ça, c'est un autre cantique qu'on récite dans l'Église traditionnelle. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Alors Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge après 7 ans de mariage. Demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans et ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.